Nous allons poursuivre par notre sujet principal au cœur de l'April et de Libre à vous, où j'aurai le plaisir d'échanger avec ma collègue Isabelle Avani, qui en plus de faire la régie aujourd'hui, nous présentera un aperçu de ce qu'elle fait à l'April pour faire avancer la cause du logiciel libre. Quel talent! Nous en apprendrons plus sur Vincent Calame, qui vient de rentrer en studio et que j'invite à s'installer confortablement avec nous. Je vous proposerai ensuite un aperçu, je vous proposerai aussi un aperçu des actions institutionnelles de l'April, plus spécifiquement notre action sur une proposition de loi visant à encourager l'usage du contrôle parental. Mais tout d'abord, tout comme je vous l'annonçais avant la pause musicale, j'ai le plaisir d'avoir avec moi par téléphone Laure-Élise Deniel, qui est notamment la voix derrière les jingles de Libre à vous. Bonjour Laure-Élise, est-ce que tu es avec nous ?
Bonjour, je suis là.
Parfait. Alors déjà, je me permets de transmettre les bonjours de Marie-Odile, qui est connectée sur le salon web de l'émission Libre à vous, sur le website de la radio. D'ailleurs, je dis à toutes les personnes qui nous écoutent que vous pouvez nous y rejoindre dès à présent. Le lien du webchat est sur causecommune.fm. Alors bonjour Laure-Élise, je vais commencer par une question très classique. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Eh bien bonjour, bonjour à Marie-Odile évidemment. Je m'appelle Laure-Élise et je suis comédienne. J'ai suivi initialement une formation d'ingénieur en bâtiment et en 2018, j'ai fait un virage à 180 degrés et je me suis inscrite au cours Florent que j'ai terminé en 2020 et j'ai également suivi une formation de doublage. Voilà. Depuis, j'ai fondé un collectif avec les personnes que j'ai rencontrées dans ce parcours, le collectif Neptune, et puis on est en train de monter nos premiers projets.
Super, bah tu pourras nous en dire plus. Alors bah, du coup, on a compris que ton métier, ton talent tourne autour de ta voix. Et donc du coup, c'est comment... Donc c'est pour ça que tu es venu prêter ta voix, c'est le talent que tu as pu apporter à l'équipe Libre à vous. Comment tu es arrivé justement dans notre équipe ?
Alors j'ai rejoint votre superbe équipe grâce à Elodie, ma sœur, qui participe au montage des podcasts de l'émission. En fait, en discutant avec elle, un jour, je lui ai demandé si jamais l'équipe cherchait quelqu'un pour faire des lectures, des jingles, ou enfin si jamais une voix pouvait servir à quoi que ce soit pour l'émission. Et elle a fait passer le message, et puis c'est Frédéric Couchet qui m'a contactée. Voilà comment je suis arrivée jusqu'à vous. je connaissais pas du tout l'April au départ. Et voilà, on a beaucoup échangé sur... l'identité de l'émission, l'ambiance. J'ai fait plusieurs propositions, notamment sur les jingles, pour jouer sur les intentions, les tonalités, pour trouver ce qui correspondait vraiment à l'identité de l'émission.
Oui, et j'ai trouvé ça... Du coup, j'ai aussi suivi évidemment ton arrivée, puis les questions que tu nous posais. C'est vrai que nous, Libre à vous, il reste une émission qui est quand même amateur. Hein. Alors, il y a une part des professionnels de l'April, mais dont ce n'est pas le métier qui s'occupe de l'animation, etc. Et pour nous, c'est important aussi de rendre quand même une émission aussi agréable à écouter que possible, aussi professionnelle, et avoir une identité vocale fait partie de tout ça. Et c'est intéressant justement de voir comment tu t'y prenais pour travailler. Parce que pendant tu nous posais ces questions sur l'identité, sur les émotions... Et c'est intéressant comment justement tu pouvais, de voir ta méthode de travail, ton approche de la chose, qui pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est pas forcément évident. Alors du coup, voilà, comment tu t'y prends pour apprécier, pour construire cette identité, identité vocale, je sais pas comment. Donc tu me demandes.
Sur les jingles, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté de ce qu'on voulait faire transparaître. En fait, c'est vrai que avec juste une voix, on l'entend notamment si on prête un peu l'oreille aux publicités de la radio, en fonction du produit, il n'y aura pas la même intention derrière. Et c'était ça qu'il fallait réussir à faire ressortir pour Libre à vous. Il y avait cette idée d'un peu d'émission sérieuse, mais avec un peu un côté radio pirate. Un peu rebelle, donc il fallait réussir à allier les deux. Voilà, on a tâtonné, j'ai fait plusieurs sessions d'enregistrement en fonction des phrases, des phrases des jingles, et puis j'ai réussi et Fred a réussi aussi à m'indiquer un peu plus, à m'orienter, m'aiguiller un peu plus pour réussir à trouver ce qu'il vous fallait.
Oui, ils ont voilà, pas de... moi, c'était... C'est un vrai travail d'aller-retour aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on proposait les textes qu'on avait besoin, on pouvait t'aiguiller, c'était à toi aussi de, nous, de chercher en nous les bonnes indications pour pouvoir proposer finalement un résultat. Et est-ce que le fait que ce soit des capsules courtes comme ça le rend l'exercice plus facile, plus difficile?
Alors, le travail de la voix, c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est pas facile ni difficile, mais c'est vrai que vu que c'est court, il faut vraiment que l'intention, l'intensité soit à 200%. Par rapport à une conversation normale, il faut vraiment investir beaucoup plus la phrase pour que l'énergie ressorte. Après, c'est un exercice que j'aime particulièrement. Donc, c'était vraiment un plaisir de vous aider à créer ces petits jingles.
En tout cas, nous, on les trouve. Enfin, on est très heureux de cette identité vocale que tu nous as proposée, qui étoffe vraiment, je trouve, notre émission.
Et merci beaucoup.
Et c'est un exercice que tu fais du coup professionnellement aussi ou avec d'autres que tu as eu l'occasion de faire avec d'autres associations ou...
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. Pour le moment, ça reste vraiment restreint à l'April. Après, si des auditeurs nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à me contacter.
Alors du coup, comme je disais, bon, là, on a pu en plus entendre en direct un enregistrement. Depuis janvier, tu prêtes ta voix donc, aux chroniques de Marie-Odile, pour qui, justement, elle prenait plus de plaisir à l'écriture des chroniques plutôt qu'à leur lecture en direct. Du coup, finalement, vous vous êtes bien trouvés. Du coup, je pense que c'est, a priori, c'est un exercice qui est assez différent de lire un texte sur entre 5 et 10 minutes que par rapport à un jingle qui doit contenir une émotion très spécifique où tu abordes ça de la même manière.
Alors j'aborde ça pas tout à fait de la même manière, mais déjà parce que j'apprends beaucoup des chroniques de Marie-Odile. Ça m'intéresse énormément de lire les transcriptions et de pouvoir partager ce qu'il en ressort via cette chronique. J'aborde ça plus... plus comme un reportage, en fait, pour partager du savoir et partager une réflexion. Donc pour la lire... C'est plutôt différentes étapes. J'ai commencé par lire la transcription qui se prête à la chronique pour bien comprendre les enjeux et les idées que Marie-Odile a voulu mettre en avant et faire ressortir, les concepts qui sont abordés, parce que moi je suis assez novice en ce qui concerne l'informatique et l'informatique libre, donc je réfléchis parfois pas mal pour être bien sûr de l'intention et du sens qui sont donnés dans son texte. Et après, pour la lecture en elle-même et l'enregistrement, ben, c'est là que je me sers de mon expérience de comédienne, un peu c'est à mon tour de transmettre, de me réapproprier ce message et ses valeurs et de transmettre ces informations à votre audience.
Et ce que je trouve intéressant là, dans ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, tu ne te contentes pas de recevoir le texte et de le lire et puis c'est fini. On entend que c'est du travail aussi parce que tu prends ce temps pour t'approprier les concepts, pour comprendre ce que tu vas lire. Et je trouve que ça se ressent puisqu'on n'a pas simplement l'impression que tu lis un texte quelconque. Et ça, c'est intéressant ça.
Mais c'est vrai que de manière générale, pour un comédien, si on ne comprend pas ce qu'on dit, on ne va pas pouvoir le jouer. Il faut se le réapproprier, il faut le comprendre, il faut donner un sens et un enjeu au message qu'on transmet, quel qu'il soit. Et bon, là, en l'occurrence, ça reste quand même très accessible et c'est quand même enrichissant de pouvoir se dire qu'on apprend quelque chose en lisant un texte que je ne serais pas allée chercher de moi-même non plus. Et du coup, de pouvoir partager un nouveau savoir, une nouvelle réflexion, ou alimenter aussi sa réflexion personnelle, c'est quelque chose qui enrichit la transcription en elle-même, en fait.
Super. Et je trouve que tu me dois sur un aspect important des chroniques de Marie-Odile. Moi, je trouve qu'elle a une excellente capacité de synthèse et de pédagogie pour rendre effectivement accessibles des concepts compliqués et complexes parfois. Alors Fred, qui est justement avec nous sur le salon web de l'émission, souhaite te poser une question. Il te demande si les expériences avec Libre à vous te donnent envie de faire de la radio sous une forme ou sous une autre.
Je me suis pas posé la question de faire de la radio, mais ce serait pourquoi pas. C'est vrai que pour l'instant, les chroniques de Marie-Odile, je les pré-enregistre, comme ça a été précisé. La raison au départ, c'est que normalement, je ne suis pas disponible à l'heure à laquelle est diffusée l'émission. Donc c'était vraiment plus une question pratique et d'organisation, et ça demandait un peu d'anticipation. Après, faire de la radio, pourquoi pas, ça se réfléchit, je suis ouverte à toutes les propositions.
C'était pas une question piège.
Non, non, pas du tout.
Alors, je vois que notre temps d'échange va bientôt arriver à sa fin, mais alors tu nous as parlé, parce que bah, tu nous parlais de toi, tu nous parlais notamment d'un collectif dont, que tu avais initié, le collectif Neptune. Est-ce que tu veux nous en dire quand même quelques mots, ou si tu as alors des actualités autour de ce collectif à partager, n'hésite pas à le faire.
Alors, le collectif Neptune, oui, c'est un collectif de comédiens qui a vocation à monter des créations théâtrales. Aujourd'hui, on est un peu moins d'une dizaine. On a plusieurs projets en cours. Voilà, on a une page sur un site non libre. On partage des informations. Voilà, si vous tapez collectif Neptune, vous devriez nous trouver. On a notamment un spectacle qui se monte en collaboration avec une autre association. Voilà, qui s'appelle Une lettre, un sourire, qui a vocation à envoyer des lettres aux personnes âgées dans les EHPAD. Voilà, on a plusieurs petits projets qui se montent et qui prennent chacun leur temps, et on mettra toutes les informations sur notre page, voilà, pour ceux qui veulent nous suivre.
Parfait, et on mettra nous le lien vers ce collectif, le collectif Neptune, sur la page de l'émission. Avant de te libérer, une dernière question. Est-ce que tu connaissais le logiciel Libre avant de participer, et depuis que tu participes au projet Libre à vous, est-ce que tu as développé un peu tes connaissances? Du coup, oui, un peu, tu nous l'as dit, sur le logiciel Libre.
J'en connaissais quelques-uns, notamment grâce à Elodie qui m'a mis en contact avec l'April, la panoplie Frama par exemple, ou OpenOffice. Et c'est vrai que depuis, j'essaye de faire un peu plus attention dans ma consommation de logiciels. Notamment l'utilisation d'Audacity pour les enregistrements. Voilà, de manière générale, j'essaye de faire un peu plus attention, mais c'est pas toujours facile.
Non, et puis on croit dur à la démarche des petits pas, et c'est un pas à la fois, et l'important c'est d'ouvrir aussi son regard sur ces enjeux. En tout cas, merci beaucoup Laure-Élise d'avoir pris ce temps d'échange avec nous, et puis globalement pour ta participation à ce beau projet qui est Libre à vous. Je te souhaite une excellente fin de journée, et puis au mois prochain pour une prochaine lecture de chronique du coup.
Avec plaisir, à bientôt.
Salut Laure-Élise. Alors, sans trop de transition, dans le cadre de cette émission spéciale au cœur de l'April, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant d'évoquer un exemple d'action institutionnelle que nous menons. Notamment car, en plus d'être un des animateurs et régisseurs de Libre à vous, j'ai l'honneur d'être chargé de mission affaires publiques pour l'April depuis 2016. Alors, pour commencer, précisons peut-être ce qu'on entend par action institutionnelle ou affaires publiques. Dans son histoire, l'April s'est rapidement rendu compte qu'il ne pouvait suffire de faire la seule promotion du logiciel libre auprès du grand public. Cela est certes indispensable, hein, ça l'est toujours, mais il y a malheureusement des intérêts contraires à ceux du logiciel libre, des rapports de force, parfois même, voire trop souvent, défavorables aux libertés informatiques. Et c'est donc le sens du plaidoyer politique que cherche à développer l'April, agir auprès des pouvoirs publics pour un contexte juridique, économique, politique favorable au développement du logiciel libre. Et bien sûr de le faire en cohérence avec l'éthique que nous défendons, en transparence et sur des bases politiques claires et solidement argumentées. Non pas pour défendre des intérêts particuliers, mais pour défendre ce que nous considérons être l'intérêt général. Nous menons déjà ces actions dans l'optique de créer des rapports de force plus favorables au logiciel libre. L'exemple le plus marquant étant notre revendication pour une véritable priorité au logiciel libre dans les administrations publiques. Il paraît d'ailleurs inconcevable qu'en réalité que l'impôt finance du logiciel privateur et non pas un commun informationnel comme le logiciel libre au bénéfice de toutes et tous. Et nous agissons aussi parfois pour lutter contre des situations qui menacent les libertés informatiques. Il peut s'agir d'atteintes directes, comme la situation d'addiction totale du ministère des Armées à Microsoft, qui renouvelle sans cesse un contrat open bar avec l'entreprise américaine, alimentant ainsi sans cesse sa propre dépendance. Une situation que nous dénonçons depuis plusieurs années et sur laquelle nous appelons à faire la lumière. Il peut aussi s'agir d'atteintes plus indirectes, où l'objet initial d'une proposition de loi, par exemple, ne concernait pas les libertés informatiques, mais qui, par effet de bord, fait peser une menace sur ces libertés. Et c'était le cas dans un dossier récent de l'April, où nous avons agi autour d'une proposition de loi qui aurait pu, par effet de bord, interdire la vente d'ordinateurs dits nus, c'est-à-dire vendus sans système d'exploitation. Au dernier trimestre 2021, le député de la majorité, Bruno Studer, dépose une proposition de loi dont l'objet, une proposition de loi visant à encourager l'usage du contrôle parental. Elle sera d'abord débattue à l'Assemblée nationale avant d'arriver au Sénat. Plus précisément, elle doit d'abord être débattue par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée, qui peut amender le texte, puis cette version du texte éventuellement modifiée est débattue en séance publique avec potentiellement l'ensemble des députés qui peuvent à leur tour amender le texte. Celui-là sera ensuite, ce sera ensuite au tour du Sénat, dans cette même logique de travaux en commission puis en plénière, de discuter du texte issu des travaux de l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle communément la navette parlementaire. Cette proposition de loi, donc, était construite autour d'une proposition d'un article central, qui avait pour objet d'imposer aux fabricants d'équipements informatiques la préinstallation d'un logiciel de contrôle parental que la personne qui acquiert l'équipement pourra activer ou non lors de la mise en service de l'appareil. Et c'est là où la question ou l'enjeu surgit. Serait-il encore possible de vendre des ordinateurs sans système d'exploitation ? Puisqu'il est de fait impossible de préinstaller un logiciel de contrôle parental sur une machine qui n'aurait pas de système d'exploitation. Bon, soyons précis. La proposition de loi visait spécifiquement les équipements terminaux permettant l'accès à des services de communication au public en ligne. La question de savoir si des ordinateurs nus sont couverts par cette définition se pose. En tout cas, une chose est sûre, le doute est là. Et l'incertitude n'est jamais une bonne chose en droit. Les acteurs économiques, notamment, privilégiant souvent les voies de moindre risque. Particulièrement en plus dans une situation où le marché des équipements vendus sans système d'exploitation est déjà assez fragile et même mis à mal, et notamment par les pratiques de vente forcée. Et donc l'April, pour qui il n'était pas question de discuter du fond de la proposition de loi, ce n'est vraiment pas l'objet de l'association, s'est mobilisée pour signaler que dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi pourrait laisser craindre des atteintes aux libertés informatiques des consommateurs et des consommatrices. Et une réalité de l'action institutionnelle, c'est que parfois, on ne remarque pas immédiatement une menace pour le logiciel libre. Et donc ce n'est qu'en amont des débats en séance publique de l'Assemblée nationale, donc une fois que les travaux en commission étaient déjà passés, que nous avons envoyé nos premières propositions d'amendement à des députés pour exclure explicitement les équipements vendus sans système d'exploitation du périmètre de la loi. Et encore là, peut-être trop tardivement, aucune de nos propositions n'a été reprise et donc débattue en hémicycle. Le tout, et ça c'est une autre partie de la réalité de nos travaux, c'est que tout ça se passait toute fin décembre 2021 donc, et bah de fait, nos propres disponibilités étaient peut-être déjà moindres. Alors le texte arrive donc au Sénat, toujours avec ce risque pour les libertés informatiques. Nous contactons les sénateurs et sénatrices, membres de la commission en charge d'étudier la proposition de loi, et notamment la rapporteure Sylviane Noël, en charge de conduire les travaux du Sénat sur ce texte. Et à nouveau, là, malheureusement, malgré nos efforts, nos amendements ne seront pas retenus, donc ils ne seront toujours pas débattus. La lecture en séance publique, qui est donc l'étape suivante, sera donc notre dernière occasion d'éviter ce dommage collatéral pour la vente des ordinateurs nus ou vendus sans système d'exploitation. Alors précisons ici que si bien sûr nous agissons pour que le texte soit modifié, le seul fait de voir nos amendements repris et déposés est important. C'est important pour que la question soit justement débattue et qu'il puisse être à minima dit à cette occasion, dit par la représentation là au Sénat, qu'effectivement les équipements nus ne sont pas concernés par la future loi. C'est ce qu'on appelle l'intention du législateur, chose sur laquelle un juge pourra s'appuyer si jamais un litige devait survenir dans le futur. Donc là, à ce moment-là, je contacte vraiment tous les sénateurs et sénatrices que nous savons sensibles aux enjeux au sujet des libertés informatiques, ainsi que les secrétariats des différents groupes politiques qui constituent le Sénat. Et puis bien sûr, la rapporteure, pour justement nous assurer que ce débat ait lieu, et que notre crainte soit entendue. Plusieurs parlementaires décident de reprendre nos propositions d'amendement, la rapporteure aussi, ou presque, puisque sa proposition n'exclut pas l'ensemble des équipements vendus sans système d'exploitation, mais seulement ceux à destination des professionnels. Et ce sera cet amendement qui sera adopté. Alors là, malheureusement, à ce stade, le doute initial se voit en fait renforcé. Parce que si le marché professionnel est spécifiquement exclu, le marché professionnel de la vente des équipements vendus sans système d'exploitation, cela veut-il dire que la vente des machines nues au grand public est, lui, quant à lui, bien concerné par la proposition de loi ? Alors là, ultime étape, il ne nous reste plus que la commission mixte paritaire pour agir. Une commission mixte paritaire, en gros, rassemble un nombre égal de députés et de membres du Sénat pour trouver un texte compromis entre les versions des deux chambres. Alors là, nous exprimons à nouveau nos très fortes craintes, particulièrement auprès des rapporteurs, Sylviane Noël et de l'Assemblée, Bruno Studer qui plus est, était celui qui avait déposé la proposition de loi, et donc son nom allait être attaché à cette proposition de loi, une fois loi. Et là, nous insistons donc sur l'importance de rectifier le tir. C'est l'ensemble des équipements nus qui doivent être exclus du périmètre de la loi. Et fort heureusement, nous serons entendus. La vente d'équipements sans système d'exploitation est bien hors de danger et explicitement sortie du périmètre. Et donc voilà un exemple d'une action relativement discrète de l'April, puisque au final, il n'y a aucune modification du fond du droit actuel concernant le logiciel libre une fois la loi votée. Mais donc néanmoins importante pour nos libertés à toutes et tous. Et puis je profite de cette petite présentation pour remercier en particulier Bruno Studer qui effectivement s'est montré tout à fait à l'écoute de nos craintes. Après ce long monologue, qui j'espère quand même vous aura paru intéressant, je pense que nous avons tous et toutes mérité une petite pause musicale. Ah, alors oui, Isa donc a passé en tapis. Voilà, donc c'est un autre de mes coups de cœur, Arcane par Cloud Kicker, un morceau qui me semble qui peut se classer dans du math rock. Je vais vous laisser l'écouter, on en parlera juste après sur Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter Arcane par Cloud Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Alors comme je vous le disais, c'est un de mes coups de cœur des musiques que nous avons diffusées dans Libre à vous. Alors un morceau qui me semble peut se classer comme du math rock, dont j'adore vraiment la construction rythmique. Alors ça démarre au quart de tour et puis ça nous embarque pour 3 minutes sans nous laisser le temps de nous poser en enchaînant les séquences rythmiques. En tout cas j'espère que ça vous aura plu et que comme moi le grain de folie de ce morceau vous aura emporté.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre spécial au cœur de l'April et de Libre à vous, avec celle que tous les membres de l'April qui ont mis les pieds dans un stand de l'association connaissent. J'ai nommé ma collègue Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Salut Isa.
Salut, bonjour à tout le monde.
Alors je rappelle que tu t'occupes en ce moment même de la régie, donc merci donc de te prêter à cet exercice pas forcément évident de dédoublement de tâches.
Tout peut arriver, mais... On va voir.
On verra. Voilà. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter et nous dire plus précisément en quoi consiste ton poste donc de coordinatrice vie associative et responsable projet ?
Voilà, donc tu viens de nommer ma fonction. Donc je m'occupe de plusieurs choses. Il y a la partie gestion des membres qui est très important pour nous parce qu'on a voilà c'est notre force et on a près de 3000 membres et je m'occupe de cette partie avec ma collègue Elsa. Puis il y a le grand axe important, c'est aussi l'axe sensibilisation qui se décline de différentes façons. Je suis animatrice du groupe de travail sensibilisation qui voit la participation de toute personne intéressée. Donc il peut y avoir les membres de l'équipe salariée qui relisent des documents, il peut y avoir des membres April qui participent aux réunions qu'on organise, il peut y avoir aussi des personnes qui ne sont pas membres mais qui sont intéressées à promouvoir le logiciel libre avec nous et qui donc participent ponctuellement à des réunions. Ça se décline aussi la sensibilisation, ça se fait aussi sur les événements. Donc on essaie de participer à un maximum d'événements plus spécifiquement libristes, comme ça peut être les journées du logiciel libre hein, qui arrivent bientôt le week-end de 2 et 3 avril à Lyon. Donc on sera présent avec un stand et avec une équipe magique de bénévoles. Ça se décline avec la production de documents de sensibilisation, de ressources explicatives des principes, des enjeux du logiciel libre. Ça peut être des flyers, ça peut être l'expo libre, rien. Une collection de panneaux qui explique justement la philosophie du logiciel libre. Mais ça peut être aussi des goodies, voilà, comme des stickers, des t-shirts qui peuvent lancer des messages et donner envie aux personnes d'en savoir plus. Et ça peut être aussi une initiative comme le Libre en Fête, sur lequel peut-être tu avais envie de me poser des questions aussi.
Bah, quelle présentation complète et efficace. Alors justement, puisque tu nous parles de Libre en Fête, ça c'est un événement important qui a lieu en ce moment même. Je pense qu'on pourrait même parler d'un méta-événement. Et je crois que c'est la 25e occurrence en plus, donc une année importante, un millésime important. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus ? C'est quoi le Libre en Fête ? En quoi ça consiste ?
Alors, la millésime, juste pour donner l'information correcte, est la 21e.
Mais ah, elle est avec les 25 ans de l'April. Ouais.
Elle est très belle aussi, la 21e. Et donc, c'est une initiative nationale coordonnée par l'April qui a lieu autour du 20 mars, donc autour de l'équinoxe de printemps, qui a lieu le 20 mars, hein, non plus le 21 depuis quelques années, et qui consiste en gros à proposer des événements de découverte du logiciel libre, donc des événements qui sont destinés notamment au grand public qui connaît pas ou qui connaît peu les logiciels libres et qui ont envie d'en savoir plus. En fait, l'April n'organise pas d'événements, on n'aurait pas les ressources pour le faire. En revanche, en France, il y a énormément d'organisations locales qui promeuvent le logiciel libre. Et donc, on s'adresse à ces organisations qui peuvent être des groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres, autrement appelés GUL. Mais ça peut être aussi des associations, ça peut être des centres sociaux et culturels, ça peut être des médiathèques, des tiers-lieux. En fait, n'importe quelle organisation, finalement, qui a à cœur ces enjeux, peut bien sûr participer à cette initiative, proposer un ou plusieurs événements de découverte des logiciels libres ou de la culture libre en général. Ça peut être aussi ça peut être aussi par exemple une soirée où apprendre à mieux sécuriser sa vie intime, hein, ses données personnelles. Donc en fait ça peut être c'est culture libre au sens large. Et après l'April coordonne, c'est-à-dire que c'est nous qui lançons les appels pour participer à l'émission. On met à disposition un site web, on met à disposition des éléments de communication. Et d'ailleurs, je salue le superbe travail de notre membre et bénévole Antoine Bardelli, graphiste, qui a réalisé vraiment des super chouettes nouveaux éléments de communication pour le Libre en Fête de cette année. Et bien évidemment, voilà, on trouve aussi tous les événements sur le site hein, pour les personnes qui veulent chercher un événement de découverte logiciel libre près de chez elles. Et on utilise aussi l'agenda du libre, qui est un site hébergé par l'April, en fait, sur lequel on peut soumettre des événements autour du logiciel libre. Et c'est là, en fait, que ces événements sont référencés. Et après, grâce à notre équipe d'informaticiens, on arrive en étiquettant le libre, en fait, sur l'agenda libre. Bah, ça apparaît aussi sur le site de Libre, en fait. Donc, j'en profite pour remercier l'une des personnes qui gère la partie informatique site du Libre en Fête, Vincent, qui est là avec nous, ça tombe bien. Et donc, je le remercie en direct. Je parle beaucoup. Hein.
Bon, c'est ton temps de parole, c'est très bien. Et oui, je vais rejoindre tes remerciements, Antoine Barlier. C'est vrai que le nouveau site, tout ce qu'il a fait autour de Libre en Fête, le nouveau site et l'image, est vraiment, c'est magnifique. Je vous invite vraiment.
C'est très joyeux.
Alors du coup, tu parlais des journées du logiciel libre. Ça s'inscrit du coup ça aussi dans le cadre... Dans le cadre du Libre en Fête ?
Je ne sais pas s'ils l'ont étiqueté dans le cadre du Libre en Fête. Normalement, ils le font.
Il n'y a pas d'obligation.
Il n'y a absolument pas d'obligation. Ce n'est pas parce qu'on publie, on soumet un événement qui rentre dans les dates. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler les dates de cette année, du 5 mars au dimanche 3 avril. Ce n'est pas parce qu'on soumet un événement dans cette période sous l'agenda des Libres qu'automatiquement on rentre dans le Libre en Fête. Non, bien sûr, c'est un choix de la personne ou de l'organisation, donc c'est pas du tout grave. Et on adore l'ALDIL, donc c'est le groupe, l'organisation qui organise les journées du logiciel libre, et on n'en veut pas s'ils n'ont pas mis l'étiquette libre en fait. C'est très bien quand même.
Alors du coup, est-ce que tu vas participer, toi, tu vas participer à deux conférences même aux journées du logiciel libre. Il y aura un stand. Du coup, je vais te poser à toi une question, parce que ça fait depuis fin l'année dernière qu'on a pu refaire des stands en physique après toute une période de confinement. Qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir à nouveau te retrouver sur des stands, dans des événements, de voir un peu aussi les camarades libristes?
Alors, le premier événement auquel j'ai participé après beaucoup, beaucoup de temps, c'était l'Open Source Experience, donc un salon professionnel qui a eu lieu à Paris en novembre 2021. Et en fait, ça nous a fait énormément plaisir parce qu'il y avait des personnes qu'on ne voyait pas vraiment depuis longtemps. Les événements, c'est pour toucher le public, bien sûr, mais c'est aussi un grand moment de convivialité avec des organisations et surtout des personnes qu'on aime bien, avec lesquelles on participe à la promotion du logiciel libre. Donc c'est un plaisir, et en plus j'ai jamais participé encore aux journées du logiciel libre à Lyon, donc ça fait longtemps que je voulais y aller, et je suis ravie de participer à cette édition.
Bah, pour y être, moi, allé une ou deux fois, je sais plus, j'ai toujours, enfin, je trouve que c'est vraiment un super moment. On est vraiment entre des personnes convaincues par l'importance de défendre les libertés informatiques, et on est bien. Je trouve que c'est ce genre d'événement où on se sent bien. De toute façon, je redonnerai aussi en fin d'émission les détails, sur effectivement pour les différentes conférences qui peuvent intéresser. Et bien sûr, les liens seront sur l'agenda du libre.org que tu as déjà évoqué. Alors, tu as aussi parlé du coup d'une de tes activités, si ce n'est l'activité principale que tu as à l'April, autour du groupe sensibilisation. Donc, tu en as déjà un peu parlé. Alors, que fait ce groupe et quels sont vos projets actuels? Comment vous fonctionnez?
Oui, donc le groupe a déjà une liste de discussions. Donc, c'est très important. Si vous êtes intéressé à participer à la promotion du logiciel libre auprès du grand public, le plus simple, c'est de s'inscrire à la liste de discussion sensibilisation. Donc, on mettra la référence sur la page de l'émission pour pouvoir vous abonner facilement. Il n'y a pas besoin d'être membre pour participer à cette liste. Après, on a une page wiki où on liste les projets sur lesquels on travaille, ou les projets possibles, hein, les options possibles de projets. Et donc, dans ces dernières années, on a travaillé sur un jeu de plateau coopératif Le jeu du gnou, et sur La boussole du libre, qui est plutôt un document visant à orienter, comme les boussoles font, à orienter les personnes vers des liens, vers des ressources fiables, à jour, accessibles, pour les aider en fait à obtenir des informations sur le logiciel libre, sur comment s'initier à un logiciel libre, sur comment trouver de l'aide. Et puis j'en profite pour dire qu'on a, on a fait ces dernières années, on a aussi travaillé un quiz sur l'Expo Libre, c'est-à-dire une série de questions qui concernent les enjeux du logiciel libre qui sont expliqués dans les panneaux. Et en fait, tout dernièrement, toujours notre graphiste bénévole Antoine Bardelli, merci encore à lui, il a réalisé une affichette en fait, avec le quiz qu'on pourra mettre à disposition du public, notamment aux journées du logiciel libre. Donc le but, c'est de lancer un petit défi. Donc il faut voir ça comme un jeu. Hein. Donc on lance un défi au grand public. Et en fait, ça, finalement, ça les poussera à lire encore plus attentivement les panneaux.
Parfait. Alors du coup, parce que tu nous as donc dit que n'importe qui, on n'est pas obligé d'être membre de l'April pour contribuer au groupe sensibilisation. Est-ce que vous recherchez des compétences en particulier? J'imagine que toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement si on souhaite contribuer au groupe sensibilisation?
Donc, en fait, on organise aussi des réunions, notamment dans lesquelles on discute des projets en cours, des possibles projets qu'on peut commencer, qu'on peut démarrer. C'est aussi l'occasion de discuter entre nous, parce qu'en fait, si on a envie de sensibiliser autour de soi, c'est important aussi d'avoir les bonnes ressources. C'est important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde du livre et de l'informatique. Et donc, finalement, ça devient un moment aussi un peu comme un bar, hein, si on se retrouve, on parle, on échange des informations, donc on apprend aussi plein de choses. La compétence vraiment importante, c'est de s'intéresser de ces sujets. Après, on fait beaucoup de travail, si vous voulez, d'élaboration. Hein. Dernièrement, on a fait surtout, on a élaboré des quiz, on a élaboré des textes pour un jeu, on a recherché des liens et on les a présentés. Donc c'est de la recherche, je dirais. C'est de la rédaction, c'est de la relecture, justement parce que la forme est très importante. Il faut avoir toujours en tête qu'on a en face un public qui ne s'y connaît pas forcément. Donc il faut trouver la bonne formulation pour que ce soit le plus clair possible aussi. Et puis, voilà, au fur et à mesure, on peut avoir aussi besoin. Par exemple, on est en train de réfléchir à des possibles goodies, des nouveaux goodies. Donc, par exemple, il y a un bénévole qui s'est chargé de poser des questions dans un Fab Lab qui a une brodeuse, par exemple, qui s'est chargé de faire des tests, de faire même une formation, pas forcément pour la prime, mais du coup, ça peut nous être utile. Donc, ça peut être aussi la recherche éventuellement de prestataires, de fournisseurs, de nouvelles idées. Donc, c'est très vaste.
Ok, si on a envie de s'engager, on peut venir proposer des choses.
Absolument.
On trouvera une manière de... Ok, alors peut-être pour finir, parce que là, notre temps arrive sur la fin. Concrètement, je crois que donc, vous vous retrouvez après toutes les deux semaines. Un jeudi sur deux.
On a suspendu ce mois-ci parce qu'il y avait pas mal de choses côté avril, mais la prochaine réunion est le 7 avril. Donc c'est un jeudi à partir de 17h30 jusqu'à 19h30.
D'accord. Et à distance, c'est-à-dire si vous passez sur un logiciel, je crois que vous passez par Mumble ou Jitsi.
On passe par Jitsi. Plus précisément, le Jitsi Sauce April, le visio.chapril.
Voilà, donc un logiciel de visioconférence qui ne demande aucune compétence particulière pour être utilisé.
Navigateur
web. Et d'ailleurs, je vais te féliciter parce qu'effectivement, avant, vous vous retrouviez, vous faisiez des réunions physiques. Et bah, comme pour toutes les assos, vous êtes pris, il y a eu le confinement. Et tu as su, je trouve admirablement, passer un petit peu cette épreuve et faire durer un peu les réunions que tu avais mises en place en utilisant l'outil Jitsi. Et puis ça continue là, du coup.
On s'adapte hein, en fonction des situations et ça a permis à des personnes qui n'habitaient pas Paris de participer. Donc je suis très contente finalement. On a des nouvelles personnes qui participent. Donc il faut trouver le positif dans toute chose.
Merci beaucoup Isa. Alors, est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaitais partager?
C'est tout, je crois.
Ok, super. Bah, avant de te laisser reprendre tranquillement la régie, est-ce que tu pourrais nous présenter la prochaine pause musicale puisqu'il s'agit d'un de tes coups de cœur?
Tout à fait, donc c'est un morceau qui a été publié par un groupe qui s'appelle Vienna Dit, costaud. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un groupe qui publie sous licence de libre diffusion la plupart de ses albums. Donc libre diffusion, ça veut dire qu'on peut réutiliser la musique, mais il y a je crois une clause non commerciale. Mais en fait au tout début, ils avaient aussi publié sous licence libre un morceau. Il avait publié sur YouTube. Hein. Désolé, je dois parler de YouTube, mais juste pour expliquer comment la licence libre peut aider à faire connaître un groupe. En fait, leur titre a été réutilisé par un YouTuber comme thème d'ouverture de ses vidéos. Et ensuite, un autre canal YouTube a fait une parodie de ce YouTuber hein, et de ses vidéos. Et bah, cette musique qui avait été écoutée au départ par quelques milliers seulement de personnes, bah il y a plus de 5 millions de personnes qui l'ont écouté grâce à la licence libre. Et donc les personnes aussi se sont intéressées à la musique qui était en ouverture. Ils ont commencé à demander des informations sur un groupe, etc. Comme quoi diffuser sous licence libre aide aussi à ça. Et le morceau qu'on va écouter aujourd'hui, bah en fait c'est un groupe qui fait une musique électronique, mais utilise aussi une guitare électrique. La voix féminine est plutôt jazzy hein, comme style. Par contre, le morceau qu'on écoutera aujourd'hui, c'est plutôt du pop. Hein. C'est très mélodique et ça montre bien comme juste une bonne mélodie de la guitare et une jolie voix peuvent faire un super morceau.
Parfait, on va écouter ça, on va faire une pause musicale donc. Et donc, nous allons faire une pause musicale. Après cela, nous retrouvons Vincent Calame pour la chronique Jouons Collectif au sein de l'April. Et donc, avant ça, nous allons écouter Whatever Comes My Way par Vienna Ditto, un excellent choix de musique. Je vous souhaite une belle journée à la côte de Cause Commune, la voix des possibles. The day is getting on. The market trade is packed away. The hour's been and gone. I listen for your footfall on the stairs. I'll never hear your voice. Call up to me again. And love is an addiction that makes beggars of us all. And I shall take whatever comes my way. Addiction.